9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La contre-offensive ukrainienne a été si rapide que l'on voit déjà la guerre se terminer, la Crimée reconquise et Vladimir Poutine ligoté devant un tribunal international. Alors est-ce que c'est possible? L'Ukraine peut-elle vraiment battre la Russie? On va poser la question à Cédric Mas, il est en direct avec nous ce matin. Je demanderai ensuite à l'économiste Anne-Sophie Alsif pourquoi Emmanuel Macron est si pressé de réformer notre système de retraite. Il est en équilibre après tout. Pourquoi c'est si urgent? Et l'on terminera l'émission avec Erwan Barillo, il a 27 ans, il publie son premier roman. Imaginez Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui voudrait devenir le Christ cosmique annoncé par Teilhard du Chardin. Cédric Mas, bonjour.
Bonjour.
En tant que historien militaire, vous avez publié plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale, que ce soit sur Rommel ou sur la campagne du Rhin. Et vous commentez sur Twitter la guerre en Ukraine sur le plan tactique et stratégique. Alors on parle aujourd'hui de contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne. Est-ce qu'il s'agit d'ores et déjà d'une victoire, la première pour l'Ukraine depuis 6 mois?
Alors, il y avait déjà eu une victoire défensive lorsque l'armée russe avait été contrainte d'évacuer ses positions autour de Kiev à la fin de mars, début avril. Mais à cette époque, l'armée ukrainienne n'avait pas pu réellement repousser. Elle n'avait fait que réoccuper les zones évacuées plus ou moins, de manière plus ou moins organisée par l'armée russe. Plutôt mieux d'ailleurs. Là, cette fois-ci, nous avons une nouvelle séquence où l'armée ukrainienne a remporté un succès très net. Un succès qui repose à la fois sur une planification et une préparation exceptionnel avec des feintes et la menée en réalité de deux offensives entre Kherson et Izium-Kharkiv, et puis également une exécution qui montre que l'armée ukrainienne dans son ensemble, y compris les unités territoriales, ont augmenté leurs compétences et leur niveau. Certains analystes, dont je fais partie, parlent même de croisement de courbe entre l'armée russe qui perd de la compétence au fur et à mesure qu'elle subit des pertes qu'elle ne peut pas remplacer au même niveau de qualité et d'expérience, et l'armée ukrainienne qui monte en compétences, notamment grâce à la formation dispensée par ses alliés occidentaux et américains.
L'armée russe s'est réellement enfuie, elle a été décimée, on parle d'humiliation, on parle de débâcle.
Alors, humiliation, débâcle, ce sont des commentaires qui ne sont pas posés. Objectivement, l'armée russe a perdu des territoires. Elle a retraité, soit sur ordre, soit dans le cadre de panique locale, très rapidement. Elle a pu sauver beaucoup plus d'unités que ce qu'espéraient les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont échoué à encercler l'armée russe, simplement parce qu'elle est partie très vite, en abandonnant une masse de matériel très importante. Mais l'armée russe est certes battue, mais pas encore vaincue. En revanche, l'effet moral de cette défaite, qui a montré les Ukrainiens capables de mener une manœuvre offensive avec dislocation du dispositif russe, l'effet moral de cette défaite est beaucoup plus important que ce que l'on croit. Nous avons des images qui montrent les soldats russes qui ont réussi à fuir jusqu'en Russie, traverser la frontière et refuser de repartir au combat. Certains désertent pour rentrer chez eux d'ailleurs.
Comment vous expliquez ce retournement? En quoi les Ukrainiens se sont-ils montrés supérieurs aux Russes dans ce cas précis? C'est tactique, c'est le nombre, c'est l'aide occidentale, c'est l'armement, c'est le renseignement, c'est le moral peut-être déjà?
Tout en fait, c'est-à-dire qu'en réalité ce retournement était sous-jacent à partir de la fin juin et tout l'été. Tout l'été, on a eu une lutte des deux camps. La Russie souhaitait conserver l'initiative et l'Ukraine souhaitait l'acquérir, la conquérir. Jusque-là, c'est toujours la Russie qui a décidé, qui avait l'initiative et qui décidait quels endroits étaient des offensives. Et l'armée ukrainienne ne faisait que résister plus ou moins facilement, avec des pertes parfois très importantes. Rappelez-vous les 200 morts par jour annoncés par le président Zelensky en avril-mai. Eh bien là, aujourd'hui, on peut dire clairement que c'est l'armée ukrainienne qui s'est saisie de l'initiative. Et ça s'est fait par plusieurs étapes dont les prodromes peuvent être vus dès la fin juin, au moment où les frappes ciblées avec les roquettes très précises livrées par les Américains, les roquettes HIMARS, ont commencé à disloquer, à mettre en tension le dispositif logistique et le dispositif militaire russe. Et après, c'est une planification d'une double opération à plusieurs centaines de kilomètres d'écart, avec des unités différentes et avec des designs, une conception, une logique complètement différente entre l'offensive de Kherson qui est toujours en cours, ne l'oublions pas, et l'offensive de Kharkiv-Izium qui a été conçue sur une logique complètement différente.
Le général Sirski, le général ukrainien, aurait été le maître d'œuvre de ce retournement tactique. C'était déjà lui qui avait organisé avec succès la défense de Kiev au début de la guerre.
Oui. Alors lui, il commandait plutôt sur la partie Kharkiv-Izium. À Kherson, il y a d'autres officiers qui sont à la tête de ces éléments-là. Mais vous savez, le général en chef, il imprime. Mais après, c'est tout un travail d'état-major qu'il faut savoir acquérir. Et je le répète, jusqu'à cette démonstration de fin août, début septembre, mais à partir du 6 septembre notamment, qui vient d'être donnée par l'armée ukrainienne, nous avions des doutes, moi le premier, sur la capacité de l'armée ukrainienne à maîtriser cette manœuvre offensive. Eh bien aujourd'hui, ces doutes sont levés. L'armée ukrainienne a cette capacité, cette compétence de maîtriser ce qui est le plus compliqué dans une guerre moderne, c'est la manœuvre offensive. Vous savez, j'ai de coutume de dire que l'offensive de 1991, Tempête du désert, qui nous paraît si facile aujourd'hui, c'était d'une énorme complexité organisée et il fallait la faire. Et quand on voit toutes les armées, y compris l'armée russe, qui échouent à mener des offensives de ce grand style et d'une telle complexité, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que de maîtriser une manœuvre défensive. Et bien cette manœuvre offensive, aujourd'hui, elle est maîtrisée par tout un staff et pas simplement un général. Mais c'est important aussi que des noms de généraux ukrainiens apparaissent aussi, parce qu'il y avait aussi un problème de leadership au sein du commandement ukrainien. Et donc, c'est important. Aussi.
On parle aussi du général Zaloujny, le chef d'état-major ukrainien.
C'est le général en chef même, c'est le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, qui depuis le début se montre surtout dans ses fonctions. Vous savez, général en chef dans un conflit de ce niveau-là, vous pilotez, vous supervisez et surtout vous donnez les moyens à vos subordonnés de pouvoir mener les opérations. De même que le président Zelensky, lui, sa fonction, c'est de donner les moyens à son commandement militaire de pouvoir mener les opérations jusqu'à la victoire. Chacun reste dans son rôle et joue parfaitement son rôle à ce jour. Et on commence à en voir les résultats, surtout quand on compare à ce qui se passe du côté de la Russie. Songeons par exemple que Vladimir Poutine n'a jamais visité le front, contrairement au président Zelensky, qui était encore il y a quelques jours à Izium, à peine libéré, que les généraux en charge des opérations n'ont fait que se succéder. Le secteur qui a été attaqué par les forces ukrainiennes autour d'Izium, c'était le quatrième général qui se succédait en 2 mois.
On fait une pause, Cédric Masse, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Cédric Masse, il est historien militaire. Des territoires occupés par les Russes depuis 6 mois en Ukraine ont été libérés. On parle de 6000 km². Alors on l'a vu, ça permet de découvrir des charniers, mais ça change quoi sur le plan militaire?
Alors, il y a un double effet. Il y a un effet des opérations, puisque désormais la ville de Kharkiv est dégagée et l'armée ukrainienne a pris position plus à l'est et s'avance et commence à menacer l'oblast de Louhansk, qui était l'un des seuls oblasts qui avait quasiment été complètement conquis par l'armée russe et qui était l'objectif minimum déclaré par la Russie au moment de son invasion de l'Ukraine, conquérir l'intégralité du Donbass, c'est-à-dire l'oblast de Louhansk et de Donetsk. Bon, ça c'est opérationnel. Et surtout, ça a créé un saillant qui est en train d'être exploité, car à l'instant où je vous parle, il semblerait que l'armée ukrainienne ait relancé ses offensives en passant la rivière de l'Oskil devant laquelle elle s'est arrêtée en face d'un front russe qui a du mal à se reconstituer. Et puis il y a un effet moral, nous en parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que les soldats ukrainiens commencent à entreapercevoir la victoire. Je comparerai avec une citation de Churchill lorsqu'il a appris la victoire d'El Alamein en novembre 1942. Il a dit « c'est peut-être pas le début de la fin, mais c'est déjà la fin du commencement ».
En Russie, c'est vécu comment? Je crois que les mercenaires de Wagner, les membres des forces spéciales fustigent sur Telegram le commandement de l'armée russe. On peut lire ça dans Courrier international.
Bien sûr, y compris, je vous rappelle que Vladimir Poutine lui-même a critiqué l'armée russe lors des manœuvres dans l'extrême-orient qui se sont déroulées au même moment que cette offensive, ce qui montre bien la déconnexion du pouvoir politique russe par rapport à ces opérations qu'il a pourtant déclenchées et voulues. Donc, si vous voulez, en Russie, il semble que y ait une vraie remise en question du commandement. C'est un réflexe classique dans les dictatures où vous ne pouvez pas directement critiquer le dictateur pour ses décisions. Donc, vous cherchez des responsables intermédiaires. Donc, les chefs militaires sont tout trouvés pour assumer ce genre de défaite et d'échec. Mais il faut raison garder. La Russie essaie de mobiliser de nouvelles forces pour relancer, et surtout par rapport à votre introduction, si je peux me permettre Frédéric, le conflit est loin d'être terminé, la guerre va encore durer, et le pire serait que nous nous démobilisions dans notre soutien à l'Ukraine, car elle en a plus que jamais besoin. Il suffit de voir ce que l'on découvre dans les territoires libérés pour se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de zones qui sont occupées, et donc beaucoup d'horreurs qui sont commises à l'instant même où nous parlons dans ces zones occupées par les soldats russes.
Mais le président Zelensky a déclaré que le drapeau ukrainien reviendra partout dans le pays, dans le Donbass, dans le sud et en Crimée. Même en Crimée, annexée par la Russie, ça vous semble possible ?
Alors, c'est le but de guerre officiel de l'Ukraine. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Au moment de l'invasion du 24 février, le gouvernement de Zelensky était prêt à certaines concessions, renoncement à toute adhésion, engagement écrit de renoncer à toute adhésion à l'OTAN, ainsi que renoncement à la partie, donc la Crimée, cette péninsule qui a été annexée. Mais cette annexion, vous savez, elle est unilatérale, elle n'a jamais été reconnue dans le droit international. La Crimée est toujours ukrainienne dans le droit international public. Et suite à la découverte des charniers de Boutcha, il y a eu un revirement dans l'opinion publique ukrainienne qui désormais refuse toute concession. Et quelque part, même si le président Zelensky souhaitait lâcher, entre guillemets, la Crimée, ce qu'il ne souhaite évidemment pas, cela déclencherait une crise politique. Car aujourd'hui, le peuple ukrainien, vu ce qu'il a subi et ce qu'il découvre chaque jour, nous avons des images même d'animaux torturés au couteau par les soldats russes qui gravent sur les museaux des chiens, des aides. Vous voyez, vous avez des familles entières qui ont été décimées, des traces de torture, des charniers, les gens jetés, des pays détruits, des lieux qui sont souillés, des monuments historiques et détruits également. Donc tous ces crimes de guerre-là ne peuvent pas rester impunis. Et surtout, cette lutte-là, eh bien, elle se terminera par la libération de l'intégralité de l'Ukraine telle qu'elle avait été reconnue par la Russie, notamment à partir de 1991.
Oui, 87% des Ukrainiens, d'après un sondage, refusent toute concession territoriale à la Russie pour mettre un terme au conflit. C'est le record
J'attire votre attention sur le fait que cette majorité est y compris dans les zones de l'Est qui subissent le plus, parce que vous seriez à l'ouest de l'Ukraine et vous refuseriez des concessions, vous n'avez pas subi beaucoup de bombardements un peu au début de la guerre, mais sinon tout va bien. Ça pourrait être beaucoup pire. Mais y compris dans les zones à l'Est, y compris à Kharkiv, qui chaque nuit est bombardée, chaque jour vous avez des civils qui sont tués par des frappes qui n'ont aucune utilité militaire et qui sont là juste pour terroriser. Or, nous savons, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, que bombarder des civils gratuitement comme ça, ça n'affaiblit pas la volonté de lutte du camp ennemi, mais au contraire, ça le renforce, puisque vous créez des martyrs et vous créez des soldats encore plus motivés, et on le voit sur le terrain, pour libérer leur zone, ce qu'ils estiment être leur terre.
Mais le Kremlin peut-il se résoudre à une défaite en Ukraine et à perdre la Crimée sans utiliser tous les moyens militaires dont il dispose, à savoir la mobilisation générale ou pourquoi pas les armes nucléaires ?
Alors, il utilise déjà tous les moyens militaires dont il dispose, compte tenu de la situation. L'arme nucléaire est soumise à des conditions d'emploi qui ne sont pas réunies à ce jour. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison. Vous savez, l'arme nucléaire, c'est pas la décision d'un seul homme. Il y a tout un processus, y compris dans les pires dictatures, justement. Et puis surtout, l'usage de l'arme nucléaire, c'est déclencher des niveaux de détection, c'est surveiller, c'est monitoré par des satellites du monde entier. Et donc, sortir des armes nucléaires d'un dépôt, ça signalerait des choses qui engageraient des réactions immédiates. Donc là, il faut arrêter d'avoir peur. Il y a plus de risques d'avoir un accident nucléaire compte tenu du fait que l'Ukraine a de nombreuses centrales nucléaires que l'usage de l'arme nucléaire, à ce stade en tout cas. En attendant, la mobilisation générale, on le voit, le régime de Poutine ne peut pas se le permettre politiquement, pour l'instant. Et puis surtout, il utilise tous les moyens, y compris les pires. Il utilise des mercenaires, il utilise des djihadistes de Kadyrov, il a utilisé aussi quelques Syriens, il achète des armes à la Corée du Nord. Donc je veux dire, ils sont déjà en train d'utiliser tout ce qu'ils peuvent. Donc ils sont déjà au maximum de leur capacité, compte tenu de leur analyse de la situation de politique intérieure. Après, la question de savoir si Vladimir Poutine peut accepter une défaite, sachant qu'il n'a acquis le pouvoir et qu'il ne s'est maintenu au pouvoir que par des succès faciles et rapides, eh bien ça, c'est une question quelque part qui reste posée. Mais c'est à lui à y répondre, ce n'est pas à nous à y répondre à sa place.
Merci Cédric Mas pour toutes vos réponses. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec Anne-Sophie Alsif, les professeurs d'économie à la Sorbonne.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes chef économiste chez BDO, le cabinet d'audit et de conseil international, et vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne. Alors pourquoi Emmanuel Macron, à votre avis, tient-il tellement à réformer le système des retraites, même entre les deux tours de la présidentielle, alors qu'il était censé glaner les voix à gauche? Il promettait de le faire. Ça peut vraiment pas attendre. Le système de retraite est à l'équilibre. Il est même excédentaire de 3,2 milliards en 2022. Bon, c'est dû à la croissance post-Covid. Hein. Or, il a dit qu'il faut absolument que ça entre en vigueur l'été prochain. Pourquoi c'est si urgent ?
Alors, c'est si urgent, pas forcément pour des raisons financières à court terme, mais pour un portage politique, et notamment européen au niveau des investisseurs. En effet, on a une trajectoire d'endettement qui est importante. On voulait se désendetter avec une forte croissance qu'on attendait cette année à plus de 4%. On sera malheureusement à la moitié à cause de la guerre ukrainienne. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de dire on s'est endetté avec le Covid, mais maintenant on va avoir des finances publiques plus robustes, notamment par rapport aux partenaires allemands, et donc on va se désendetter. Bien évidemment, ça ne va pas prendre très peu de temps, ce sera sur des décennies. Par contre, ce qui est important, c'est la trajectoire et les réformes structurelles mises en avant. Et la première de ces réformes structurelles, on a parlé de l'assurance chômage, mais c'est surtout la réforme des retraites, dans un contexte où, en effet, nos partenaires européens ont beaucoup et travaillé sur cette réforme. La majorité des âges de départ sont entre 65 et 67 ans. Et donc, de fait, c'était très attendu par les partenaires et aussi pour les investisseurs, parce que cela voulait dire que Emmanuel Macron continuait de réformer. Et là aussi, pour la soutenabilité des finances et la crédibilité de la politique économique, c'était important.
Parce que ce n'est pas dû au vieillissement de la population, la nécessité de réformer le système des retraites. Au fond, les actifs payent pour les retraités. Mmh. Ça dépend donc de la masse des revenus des actifs et de la masse des pensions des retraités.
Alors, ça a quand même un petit peu un impact à moyen-long terme. Alors après, c'est plutôt un choix politique. Mais en effet, c'est un système par répartition. Donc, si votre quantité d'actifs est moins importante, vous avez par exemple un fort taux de chômage, si vous avez une crise, eh bien, en effet, si votre niveau de retraité augmente, vous pouvez avoir un problème de financement. Mais là encore, c'est ça tout l'enjeu et à mon sens, ce qui est un petit peu erroné, c'est qu'on se focalise beaucoup en France sur l'âge de départ, alors qu'à mon sens, la vraie question, c'est le niveau des pensions quand vous partez. Et en effet, le Conseil d'orientation des retraites travaille beaucoup sur 14% du PIB qui va aux retraites et en tirant le trait, on continue à être sur ces niveaux. Vous l'avez dit, ça dépend beaucoup des hypothèses et des facteurs exogènes. Mais à moyen long terme, la question est qu'est-ce que l'on veut financer? Quel niveau de pension on veut avoir à la retraite? Et on voit dans les pays européens, même si vous avez un âge de départ, et d'ailleurs c'est le cas en France, l'âge effectif est beaucoup plus à 64 ans déjà. Oui. Pourquoi? Parce qu'on préfère travailler plus longtemps pour avoir une retraite plus importante. Et à mon sens, c'est là où est tout le débat sur les niveaux des pensions.
Mais alors justement, les régimes de retraite privés, ceux des salariés et des indépendants, il est en excédent cette année de 2,6 milliards. C'est le régime de retraite de la fonction publique qui est déficitaire, parce que le déficit est financé par l'État, donc il augmente encore la dette publique, et c'est pas bien vis-à-vis de nos partenaires européens.
Alors toujours, en effet, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors après, on a ce principe de solidarité, donc et c'est aussi le but de la réforme, le gouvernement l'a annoncé, avoir cette solidarité, essayer d'avoir un système qui tranche le moins possible entre le public, le privé, les différentes catégories, les professions libérales, essayer de tout centraliser. Donc ça, c'est l'objectif. En effet, vous l'avez dit, il y a un déficit au niveau du secteur public, mais l'idée, c'est de se dire qu'avec le temps, et surtout avec les compensations qui vont avoir lieu, puisqu'en effet, le secteur privé est plutôt excédentaire, et en appliquant le principe de solidarité, il n'y aura pas de problème de financement. Après, il faut aussi regarder, hein, souvent le niveau de pension dans le secteur public est souvent des fois moins important. Donc là aussi, il faut regarder, à mon sens, toujours en termes de quantité d'argent à la retraite et pas seulement l'âge de départ.
On y reviendra, mais les retraites, c'est une grosse partie du déficit public. On parle de 15% du budget de l'État, de 25% du PIB, dans l'éducation nationale, par exemple, ce serait 28% des dépenses.
Alors en fait, il ne faut pas forcément le voir comme ça. Le grand problème qu'on a de corrélation avec l'âge de départ à la retraite, c'est aussi le taux d'activité, le taux d'emploi. On parle beaucoup du plein emploi. Hein. Le problème en France, pourquoi on est à 7% quand on dit qu'on est une baisse du taux de chômage et pas à 4%, c'est parce qu'on a un taux d'activité des moins de 25 ans et des plus de 55 ans qui est beaucoup moins élevé que les autres pays européens. Et ce que l'on voit, c'est quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, eh bien forcément, il y a un décalage sur le départ et donc le taux d'activité augmente. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de dire plus vous maintenez les gens en emploi, plus ils produisent, plus ils paient de cotisations, etc. Donc plus vous créez de richesses et cet argent que vous dégagez, vous pouvez l'octroyer à avoir des pensions plus importantes ou pour financer des transitions ou des politiques publiques, comme on l'a dit, l'investissement, l'éducation. Donc c'est vraiment un choix politique.
On dit que les dépenses publiques de retraite devraient augmenter de 1,8% par an. Or, il ne faut pas qu'elles augmentent de plus de 0,6, hein, grosso modo. Hein. C'est donc déjà trois fois trop.
Alors oui, hein, après c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on a un système assurantiel. Donc oui, c'est sûr qu'on va avoir une proportion qui va augmenter dans les prochaines années. Donc c'est un vrai sujet de financement. Mais là encore, à mon sens, c'est beaucoup plus un choix politique de comment on finance. Hein. Par exemple, garder la retraite à répartition, et on le voit dans d'autres pays européens, il peut y avoir des assurances complémentaires, mais là aussi, il faut faire attention à garder le principe de solidarité. Et puis l'autre question, c'est vraiment comment moduler l'âge de départ et la pension par rapport à votre activité, notamment à la pénibilité. Alors c'est vrai que souvent les gouvernements n'aiment pas, parce que quand vous parlez de ça, vous ouvrez un peu la boîte de Pandore, et donc en effet, quel emploi est pénible, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est ce qu'aussi ont fait beaucoup de pays européens, notamment les pays du Nord, pour essayer d'avoir l'âge de départ le plus juste, parce que l'idée c'est bien sûr l'âge de départ, mais c'est aussi... Une fois que vous êtes à la retraite, combien d'espérance de vie vous avez à la retraite en bonne santé? Et là, il y a beaucoup d'inégalités en fonction de votre catégorie sociale et de l'emploi que vous avez exercé. Donc l'idée, c'est aussi dans l'âge de départ, avoir une bonne pension, mais aussi pouvoir eh bien, profiter de sa retraite d'une manière assez égalitaire.
Au départ, en 2017, Emmanuel Macron voulait réformer le système de retraite par souci d'équité.
Hein. Voilà.
Ensuite, ça a été à cause du vieillissement. Ensuite, et maintenant, c'est pour financer la transition écologique.
Oui.
Pourquoi ne dit-il pas tout simplement, d'après ce que vous nous dites, que c'est essentiellement pour rentrer dans le pacte de stabilité européen?
Alors, bon, parce que c'est souvent difficile à dire politiquement et que ce pacte n'est pas trop aimé. Hein. En plus, il est souvent pas du tout respecté puisqu'il faudrait avoir 3% de déficit et 60% de dette publique, je le rappelle. Donc, quand on voit la zone euro, on en est très loin. Donc, cela. Mais à mon sens, c'est pas forcément pour être en accord avec les chiffres du pacte, mais c'est plutôt pour donner un signal positif à nos partenaires et aux investisseurs. Il faut savoir qu'on est dans un contexte de hausse des taux. Et donc, l'idée aussi, c'est de dire, attention, n'attaquez pas la France, nous sommes robustes, nous faisons de bonnes réformes structurelles, tout va bien, gardons une dette publique soutenable avec des taux d'intérêt bas.
On fait une pause, Anne-Sophie Alsif, et on y retourne.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO et professeure à la Sorbonne. Elle est toujours avec nous ce matin. Le système de retraite, on l'a dit, est à l'équilibre hein, en ce moment. Il est même excédentaire. Mais on nous dit qu'il devrait être déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années. Or, on n'en sait rien. On sait que ça dépend. Il pourrait y avoir un nouveau Covid. Il peut y avoir des progrès technologiques. Il peut y avoir de la croissance ou pas de croissance. Et c'est en fonction de tout ça qu'on saura s'il est excédentaire ou déficitaire. Pour l'instant, on n'en sait rien.
Pour l'instant, on n'en sait rien, puisque comme vous l'avez dit, hein, le modèle dépend des gains de productivité, de la croissance, du taux de chômage, de toutes les crises. Donc, en effet, on l'a vu depuis 3 ans, c'est assez difficile. Bon, après, il faut quand même faire des prévisions, puisqu'il faut quand même savoir quand même financièrement où on va. Mais c'est vrai que c'est vraiment en fonction de ces hypothèses. Après, le Conseil d'orientation des retraites a fait un gros travail pour justement retravailler ces hypothèses qui pouvaient des fois paraître assez optimistes au vu des crises que l'on a vécues, pour voilà, être plus flexible et s'adapter quand on a un choc exogène aussi important que le Covid. Mais en effet, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire comment sera l'état du système dans 25 ans.
On sait que c'est plutôt le régime de retraite des fonctionnaires qui est déficitaire. Pourquoi ne pas réformer tout simplement le régime de retraite des fonctionnaires? Ça ne suffirait pas?
Alors ça ne suffirait pas, et puis c'est assez compliqué parce que pour beaucoup de fonctionnaires qui sont rentrés avec un contrat, notamment de retraite, ça va être compliqué puisque forcément vous vous rendez compte que si vous allez réformer, ça va sûrement être moins avantageux ou il va y avoir des pertes. Alors vous allez me dire, il y a eu beaucoup de réformes de retraite depuis des décennies où justement on perd, voilà, on part plus tard, c'est les derniers trimestres qui sont pris, enfin bon, il y a beaucoup de réformes. Là, c'est vrai que pour le pouvoir politique, on l'a vu quand même juste avant le Covid, ça paraît très loin. C'est quand même très compliqué de réformer parce que ça voudrait dire revoir ces régimes des fonctionnaires, revoir les régimes spéciaux. Si on voulait tout mettre à plat, et c'était au début l'ambition du gouvernement, ça veut dire quand même des gros changements et pour beaucoup de personnes, parce que l'idée c'était aussi quand même cela, il faut le rappeler, hein. À l'époque, quand on avait le plein emploi, donc il y a longtemps, vous rentrez dans la fonction publique où vous pouvez parfois être moins payé hein, par rapport au secteur privé, mais vous aviez des avantages sociaux plus importants et la retraite, notamment plus tôt hein, de départ, en était un. Donc c'était un petit peu le contrat. Alors que dans le privé, en effet, eh bien, vous pouviez gagner plus d'argent, mais vous aviez un mode de cotisation qui était différent. Donc c'est vrai que c'est remettre en compte ce contrat et pour beaucoup de fonctionnaires qui se disent et qui trouvent qu'ils ont bien travaillé et qui respectent, eh bien c'est aussi compliqué politiquement.
Alors je le rappelle, dans notre système, ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités. Donc le gouvernement pourrait décider de baisser le niveau des pensions, qui est, je crois, 2544 € en moyenne net. Mais enfin, ce serait mauvais pour les retraités.
Alors ce serait mauvais pour les retraités. Les futurs retraités. Et puis c'est encore, à mon sens, ça l'enjeu. Au lieu de se focaliser sur l'âge de départ, c'est les niveaux des pensions. Et ce qu'il faut faire aussi, là, très attention, là, avec la crise Covid et l'inflation, hein, comme vous l'avez dit, c'est un système où ce sont les actifs qui paient pour les retraités. Eh bien, si on garde cet âge où on ne va pas plus loin et qu'on a toujours un taux d'activité des seniors qui est plus bas que les autres pays européens, ça veut dire aussi des pensions qui sont plus faibles et surtout qui commencent à être plus décorrélées des actifs, hein, où les rémunérations vont davantage suivre, notamment l'inflation. Et c'est vrai qu'en cette période actuelle, c'est important. Donc c'est ça aussi le risque, c'est qu'il y ait un décrochage au niveau des retraités de leur pouvoir d'achat par rapport au reste de la population et par rapport aux actifs.
Alors le gouvernement pourrait augmenter le niveau des cotisations, mais ça, ce serait mauvais pour les actifs, puisque c'est eux qui payent, et il est déjà très élevé. Ce serait aussi mauvais pour la compétitivité et pour
l'emploi.
Tout à fait.
Ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à faire. On a fait énormément de réformes, notamment pour réindustrialiser, relocaliser en France. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de réformes qui vont dans ce sens. C'est vrai que d'augmenter encore le coût sur le travail, hein, on a déjà beaucoup de fiscalité, de choses à payer, eh bien, ça risque, là aussi, de pénaliser les emplois, notamment les emplois qui sont dans la compétitivité internationale, et donc d'avoir un impact sur notre compétitivité.
Donc, en fait, on va choisir de faire travailler les Français plus longtemps. Et comme c'est ce que veut le patronat, on se dit, ah ben voilà, Emmanuel Macron, en fait, il veut faire ce que veut le patronat.
Alors oui, on retombe toujours là-dedans. Alors le patronat, peut-être, mais en tout cas, on voit quand même qu'au niveau européen et globalement, c'est ce qui se fait. Il y a aussi d'autres méthodes, comme l'Allemagne l'a très bien fait pendant la crise syrienne. Le problème, c'est qu'en effet, vous avez un nombre de retraités qui augmente, vous avez votre nombre d'actifs qui décroît ou qui est moins important pour avoir cette charge. Eh bien, la solution, ça peut être aussi d'augmenter votre nombre d'actifs tout de suite. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne avec les Syriens. Vous intégrez 1 million de Syriens directement sur votre marché qui sont qualifiés en les formant pendant un an. Et bien le lendemain, enfin l'année d'après, vous pouvez les taxer pour payer votre système des retraites. Donc en fait, c'est vrai que l'immigration, et l'Allemagne l'a beaucoup utilisé, est aussi un moyen assez efficace finalement de résoudre ce problème. Mais peut-être moins évident politiquement.
Anne-Sophie Alsy, vous en tant que professeure d'économie à la Sorbonne, feriez quoi vous?
Alors, c'est ce que je viens de dire.
D'une
manière purement économique, ce qui est assez efficient, c'est en effet l'immigration. Et là, vous pouvez en effet aussi choisir dans certains secteurs pour qu'il n'y ait pas de concurrence aussi par rapport aux Français. Je vous dis, beaucoup de pays ont recours à ça. On a parlé de l'Allemagne, le Canada. Donc, c'est vrai que c'est assez efficace parce que ça vous permet de taxer tout de suite le nouvel entrant. Donc, c'est assez intéressant. Augmenter la natalité, il y a beaucoup de politiques qui vont dans ce sens, mais c'est très long, coûteux, et puis vous connaissez moins le résultat, est-ce que la personne va s'insérer ou pas, quand vous allez pouvoir la taxer pour payer les retraites, vous ne savez pas, surtout avec l'allongement des études, donc on va dire que c'est moins efficace. Donc c'est vrai qu'à court terme, et ça va être une vraie question, notamment avec le réchauffement climatique, vous allez avoir une augmentation très importante des réfugiés climatiques qui vont venir du Sud et qui sont beaucoup plus jeunes. Il y aura, à mon sens, pour l'Europe, mais pas seulement, pour tous les pays de l'OCDE, une vraie question de dire, Eh bien, comment on fait ? Beaucoup de pays peuvent voir ça comme une opportunité pour en effet financer leur système de protection sociale.
Surtout que quand on choisit de faire travailler les Français plus longtemps, il y a toujours les dernières années où de toute façon on a toutes les chances de se retrouver au chômage. Et donc en fait on est encore une charge pour la dette publique.
Tout à fait, ça c'est un autre problème au niveau des entreprises. C'est vrai que vous le dites, le patronat demande qu'il y ait ce recul d'âge de départ, alors que dans les faits aussi on voit que beaucoup de personnes sont en système de pré-retraite dès 55, 56, 57 ans et attendent du coup leur retraite pour ensuite passer au système général. Donc là aussi, c'est la question de faire que les gens puissent durer longtemps dans leur emploi et pas être mis à la porte en pré-retraite à 55 ans.
En tout cas, on a bien compris que c'était compliqué.
C'est compliqué.
Merci Anne-Sophie Elsif.
Merci
on
beaucoup.
On fait une pause, on se retrouve juste après avec un jeune romancier.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadie.
Bonjour Erwan Barillot.
Bonjour.
Vous avez 27 ans, vous publiez votre premier roman, Moi Oméga, chez Bouquin, un roman qui fait plus de 400 pages et qui se déroule entre 1984 et 2064. Votre héros est une sorte de Mark Zuckerberg qui aurait lu Teilhard de Chardin.
Exactement. C'est la rencontre entre un génie de la Silicon Valley, qui est un personnage effectivement qui a des points communs avec Mark Zuckerberg, mais aussi avec Jeff Bezos, ou on peut citer aussi Elon Musk, et qui aurait rencontré finalement Teilhard de Chardin au moment où il était à Harvard, et sa fameuse prophétie du Christ Oméga.
Alors restons sur l'aspect Zuckerberg du héros. Comme Zuckerberg, il est né en 84. Comme lui, il a créé un réseau social à 19 ans. Reliant les étudiants d'Harvard par l'intermédiaire d'un écran, puis des millions, puis des milliards d'individus. Au fond, répondant à un besoin d'attendre d'après lui des origines de l'humanité, on veut tous avoir des amis.
C'est ça. Il est parti du principe que, avant de connaître effectivement nos origines, on veut d'abord savoir qui est notre camarade de classe. On est dans un système où chacun s'espionne mutuellement. Et il a fait ce pari finalement que les êtres humains avaient vocation à être connectés de plus en plus. D'où le réseau social Friendscreen effectivement. Et cette connexion va aller croissante au fur et à mesure du roman. De plus en plus, finalement, les mailles du filet vont être de plus en plus serrées au fur et à mesure du roman.
Et maintenant, voyons le cas Pierre Teilhard de Chardin. Alors voilà un théologien, un philosophe, un scientifique. C'est l'auteur du livre Le phénomène humain.
Absolument.
Mais alors qu'est-ce qu'un prêtre jésuite comme Teilhard de Chardin, mort en 1955, a pu dire qui puisse influencer de nos jours le fondateur du plus puissant réseau social de la planète ? Et on sait bien que Teilhard de Chardin, effectivement aujourd'hui, a de l'influence sur les gens qui pensent Internet.
Absolument. Pierre Teilhard de Chardin, déjà, c'est le penseur d'Internet d'une certaine manière, puisqu'il est le premier à avoir théorisé ce qu'il a appelé la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'esprit, qui est en fait entre la biosphère et la stratosphère. Cette sphère, finalement, qui serait en fait une sorte de réseau connecté dans laquelle les êtres humains échangeraient des connaissances entre eux. Et il prédit ça déjà dans les années 1920. C'est assez incroyable. Donc 45 ans avant que les Américains ne créent Internet pour un usage militaire. Et donc il a été effectivement très visionnaire sur pas mal d'aspects. Et sa vision, puisque c'est vraiment une vision, c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mysticisme, les écrits de Teilhard de Chardin. Il envisage énormément de choses qui se sont réalisées dans l'avenir. Et sa dernière prophétie, on peut dire, c'est le retour du Christ sur Terre à la fin de l'évolution humaine et technologique.
Alors, prenons dans les choses dans l'ordre. La noosphère d'abord, la sphère de la pensée humaine. Teilhard de Chardin ne parlait pas encore de globalisation, mais de planétisation.
Hein. Oui.
Et la noosphère, c'est au fond la conscience de l'humanité à l'échelle planétaire, nourrie aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, par les contributions de tout un chacun. Cette espèce d'intelligence collective dont nous parlons aujourd'hui, bah, c'était ça, la noosphère.
C'est ça, l'intelligence collective des chercheurs, des scientifiques qui s'organisent en réseau, mais pas uniquement, des artistes également.
Des citoyens.
Des citoyens, de toute finalement conscience individuelle qui va en fait petit à petit s'agréger dans des sphères de conscience plus larges jusqu'à finalement ne former qu'une seule unité de conscience planétaire.
Alors pour Teilhard de Chardin, l'homme doit rejoindre Dieu en un point qu'il appelle Oméga, d'où
Absolument.
Le titre de votre roman, hein, « Moi, Oméga », et votre héros font se croire le Christ cosmique annoncé par Teilhard de Chardin.
C'est ça. Il a 20 ans quand il rencontre le livre que vous avez cité, qui est le livre le plus connu de Teilhard de Chardin, qui est « Le phénomène humain ». Et il va effectivement s'identifier à cette prophétie et se dire que finalement, il arrive, entre guillemets, à un meilleur moment que Jésus-Christ, puisque à son époque, on est en plein bouleversement. Le smartphone vient d'être inventé. Internet est en pleine expansion. On ne parle jamais autant de connexions, de réseaux, etc. Et il se dit finalement, j'ai 20 ans. Quand j'aurai 80 ans, on sera en 2064. Imaginons un petit peu toutes les technologies, tous les progrès qu'aura fait la science en 2064. Et il se dit, j'ai un créneau à prendre. En fait.
Oui, il le dit un peu cyniquement. Vous pensez qu'il n'y croit pas du tout à ce Christ cosmique?
Ben, en réalité, il se dit, les êtres humains n'ont pas créé eux-mêmes leurs besoins de croyance. Et la croyance en Dieu, finalement, n'a pas été faite par hasard dans la nature. Et c'est un peu ce que dit Teilhard de Chardin. Il faut que l'être humain réalise le royaume de Dieu sur Terre. Et Dieu a donné finalement cette mission à l'homme. Et il en est un petit peu convaincu, mais c'est vrai qu'il est un petit peu entre parfois cynisme et conviction. C'est un personnage que j'avais voulu complexe. On ne sait pas du tout de quel côté il est. Est-ce que c'est juste un menteur? Est-ce que c'est juste un manipulateur? Ou est-ce qu'il a au fond un fond de croyance? En tout cas, il se veut un prophète, mais c'est toujours difficile de savoir dans les prophètes quelle est la part d'authenticité, quelle est la part de manipulation.
Il va lui falloir unifier Internet, hein, que tout Internet, avec ses centaines de milliers de réseaux, ne fasse plus qu'un. Au fond, c'est le but du métaverse que Zuckerberg est en train d'essayer de mettre en place. Hein, un monde virtuel, en réalité augmentée, où l'on pourra passer le plus clair de son temps et au fond avoir toutes les activités virtuelles et réelles dans un monde qui sera voisin d'une autre.
Absolument. D'ailleurs, effectivement, dans le livre, il est dit qu'à partir des années 2020 se développent les métaverses, qui sont en fait des petits jardins secrets, finalement, individuels, qu'on l'on croit secrets, mais qui sont en fait un espèce de moule dans laquelle des gens comme Mark Zuckerberg pourront en fait mouler chaque pulsion, chaque désir, chaque finalement pensée secrète de chaque individu pour mieux le connaître en fait. Et à la fin, c'est ce qu'on voit dans le livre, tout ça est agrégé dans une sorte de gigavers qui prend les allures d'un système beaucoup plus totalitaire mais qui effectivement advient à partir des années 2060. Oui.
Mais c'est vrai que ça peut devenir horrible comme ça pourrait devenir très bien. C'est comme la télévision, c'est comme
Exactement.
Le livre, c'est comme tout.
C'est comme tout.
Au fond. Et il fait tout ça aussi pour le bien de l'humanité. On sait que tous les géants de la Silicon Valley ont toujours voulu make a better world, faire un monde meilleur. Est-ce qu'il en est capable?
En tout cas,
je dis lui, mais je pourrais dire tous les autres aussi.
En tout cas, matériellement, il faut reconnaître que dans le monde d'Oméga, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'agression, il n'y a plus personne qui meurt de faim. Une grande partie des problèmes climatiques ont été réglés. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à créer un système vertueux du point de vue matériel, j'allais dire. La seule chose qu'il a demandé aux êtres humains en échange, c'est bien normal, c'est de renoncer à une partie de leur liberté. Puisque du point de vue du système, la liberté est vue comme une sorte de variable aléatoire qui n'est pas acceptable.
Mais au fond, il y a plein de gens dans la Silicon Valley qui pensent comme ça et qui pensent qu'on peut faire un monde meilleur. C'est vrai que ça nous coûtera un certain nombre de libertés, mais au fond, c'est le prix à payer pour être plus heureux.
Voilà, c'est le prix à payer. Et puis on est dans une société finalement de consommation. On peut s'interroger de savoir quel est le prix finalement de notre liberté dans cette société de consommation. Est-ce que le but, c'est pas juste d'être livré à temps quand on a fait une commande sur une société bien connue? Est-ce que le but, c'est pas juste d'être dans une safe city finalement dans laquelle il ne nous arrive plus d'agression? Est-ce que le but, c'est pas simplement de relever les défis écologiques? On peut se poser la question.
Mais on s'est beaucoup posé pendant le Covid. Certains ont dit que la liberté, ça consistait à ne pas se faire vacciner, à ne pas mettre le masque, par exemple. Et on les a trouvés, enfin certains les ont trouvés ridicules et eux ont trouvé ridicules ceux qui les trouvaient ridicules. C'est très difficile de savoir au fond où est-ce que c'est aujourd'hui la liberté.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le QR code était un pas supplémentaire vers Oméga et que l'agrégation de plus en plus fine et le maillage de plus en plus, on va dire, précis de tout ce qui est objet connecté, de tout ce qui est traçabilité, etc., ne va pas dans le sens de la liberté, ça c'est certain.
Quelle est la morale de votre roman, à votre avis ?
Il n'y a pas vraiment de morale, si vous voulez. C'est un livre que j'ai voulu entre deux morales, si vous voulez. J'essaye de montrer d'un côté qu'il y a un phénomène que je pressens comme plus ou moins irréversible. Et de l'autre, c'est un petit peu... Quand on veut montrer que quelque chose est irréversible, c'est toujours pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive et finalement mettre un petit peu son grain de sable dans le processus, quoi. Donc c'est un peu... J'allais dire, même si je ne donne pas mon point de vue dans le livre, je reste un auteur extérieur à mon roman autant que je puisse l'être. Mais en tout cas, j'espère que des gens pourront freiner le processus de construction d'Oméga, ça c'est sûr.
Moi, Oméga, c'est le premier roman d'Erwan Barillo et ça vient de paraître chez Bouquin. Merci Erwan.
Merci à vous. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, arrive à son terme. Je vous retrouve demain matin à 9h.